au chômage. Anastasie Tudiège pour VOA Afrique, Kinshasa.
Merci beaucoup Anastasie. Et pour le débat, nous avons trois invités. À Dakar, nous avons Seydi Gassama, secrétaire exécutif d'Amnesty International, section Sénégal. À Paris, Morgan Palmer, journaliste et consultant en intelligence stratégique. Et ici, dans le Maryland, dans la région de Washington, nous avons René Lec, consultant, analyste politique. Merci à tous d'être avec nous pour le débat. Seydi Gassama, les mesures de confinement sont jugées nécessaires hein, dans cette situation. Qu'est-ce qui pose problème alors ? Est-ce que c'est le principe même de la liberté individuelle ou c'est plutôt l'excès qu'on a constaté au niveau de certaines forces de sécurité ?
Oh, je pense que ce sont plutôt les abus qui posent problème parce que les restrictions sont parfaitement prévues en droit international et dans les législations de beaucoup de pays en cas de situation exceptionnelle. Mettant en danger la vie d'une nation, un État peut prendre des mesures restreignant les libertés, comme la liberté de mouvement, la liberté d'expression, la liberté même de pratiquer sa religion comme on la pratique habituellement. Toutes ces restrictions sont fondées en droit international et en droit interne. Le problème maintenant, c'est que c'est l'application de ces restrictions doit être strictement nécessaire. Vous ne pouvez pas prendre des mesures qui vont au-delà du strict nécessaire pour faire face à la situation imposée, par exemple ici, par le Covid-19. Vous ne pouvez pas non plus, parce qu'il y a des situations d'urgence, utiliser la violence pour imposer ces mesures. Dans la plupart des États, en Afrique notamment, dans des situations d'état d'urgence, de couvre-feu, il y a des sanctions pénales qui sont prévues contre les personnes qui ne respectent pas ces couvre-feu. Au Sénégal, c'est un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Il y a des amendes. Dans la plupart des pays francophones, c'est exactement la même législation, pratiquement. Donc, il faut que, autant les citoyens ne respectent pas le couvre-feu puissent se conformer à la loi en respectant justement le couvre-feu, autant il faut que les forces de sécurité qui sont censées justement de mettre en œuvre le couvre-feu, n'est-ce pas, doivent également strictement respecter la loi, c'est-à-dire ne pas recourir à la violence au-delà du strict nécessaire pour faire face à des situations de résistance.
Au Sénégal, vous avez constaté des excès dans l'exécution de ces mesures d'urgence?
Il y a eu des situations de violence inouïe et beaucoup de personnes ont été violentées, tabassées. Les jours suivants, quand nous avons crié contre cette violence, nous utilisons d'autres méthodes qui semblerait plus douce, notamment en faisant faire à des gens des pompes qui sont, même si ce ne sont pas violentes, mais sont totalement dégradantes. Et les choses semblent entrer dans l'ordre maintenant au Sénégal, et je crois aussi dans beaucoup de pays, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, même au Rwanda, où on avait état de quelques personnes tuées.
Alors Morgan Palmer, vous êtes en France, hein, ces mesures de confinement ont été appliquées en Europe bien avant l'Afrique. Est-ce que vous avez aussi constaté un débat, des inquiétudes sur d'éventuels abus d'autorité?
Oui, mais il faut noter l'exceptionnalité des situations, parce que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, je pense que prendre des mesures comme ça est plutôt salvateur hein, pour la sécurité des peuples. On est quand même face à une grave crise sanitaire qui est sans précédent, en tout cas pour nous qui sommes des générations, des nouvelles générations. On n'a jamais vu un truc comme ça dans le monde. Et donc on ne peut pas se permettre de laisser la place à toute forme de laxisme pour répondre à l'urgence sanitaire que nous pouvons observer. Bon, bien entendu, on a pu observer, en tout cas pour ce qui concerne Paris, qui avait en quelque sorte des gens qui rechignaient à accepter les mots d'ordre de confinement tout au début, mais avec le temps et aussi avec la mondialisation de l'émotion, puisqu'on a pu voir des grandes figures qu'on pouvait imaginer intouchables, frappées par la maladie, partir, le cas de la star virtuose Manu Dibango, bref, des figures qui sont inscrites un tout petit peu dans l'imaginaire populaire. Je pense que ça a été un accélérateur dans la conscientisation et dans la sensibilisation des gens et dans leur, on va dire, auto-responsabilisation.
Alors René, ici aux États-Unis, pendant longtemps, certains gouverneurs ont refusé d'imposer ces mesures de restriction. Le président Trump lui-même refuse de s'impliquer, estimant que le gouvernement fédéral ne devrait pas prendre ces mesures. Pourquoi le problème se pose en ces termes ici ?
Écoutez, bon, il y a une dimension, les critiques de l'administration Trump diront qu'il y a une dimension un peu idéologique à cela. C'est l'idée selon laquelle le pays, même si c'est un État fédéral, le fédéralisme au sens beaucoup décentralisé et imposé à la base ne doit pas être de mise. Donc c'est un peu sur ça que s'appuie Donald Trump pour dire qu'au fond, lui, son rôle en tant que président de la fédération, c'est de donner les directives et de soutenir les États qui, eux, sont dirigés directement par les gouverneurs. Alors, bien entendu, les critiques de Trump, eux, considèrent que ce n'est pas une approche qui est jouable, d'autant plus que Trump lui-même se présente comme un président en situation de guerre, hein, une guerre contre le virus, et qu'en situation de guerre, et tout doit être centralisé au niveau fédéral.
Alors Morgane, que répondez-vous à ceux qui disent que ces mesures de confinement ne sont pas adaptées aux réalités africaines ?
Oui, ce sera difficile qu'on arrive au confinement total, parce que ça pose le problème de l'organisation sociale de manière générale. Vous savez, on est des pays, notamment sur le plan économique, on a des économies à plus de 90% détenues par l'informel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des gens qui vivent au jour le jour, c'est parce qu'ils sortent le matin qu'ils ont la certitude de pouvoir manger le soir. Donc évidemment, si on dit confinement, quand je prends le cas d'un pays que je connais bien, le Cameroun, la mesure principale qui a été prise par les autorités, c'était de voter à peu près 1 million et demi d'euros pour une population de 25 millions d'habitants. Ce que ça donne, c'est quoi ? Ça fait à peu près 40 francs CFA par habitant. Donc si vous demandez aux gens de se confiner, ce qui est une mesure raisonnable compte tenu de l'urgence sanitaire, eh bien, ils vont être confrontés au problème d'avoir à régler des problèmes existentiels. On ne va pas rester enfermé si on n'a pas de quoi manger. Donc les gens, forcément, vont braver cet ordre-là. Moi, je crois que cette situation est d'autant plus difficile que dans l'histoire de l'Afrique, c'est très nouveau ce qui se produit. On a déjà des systèmes de santé qui sont défaillants à l'ordinaire, de manière ordinaire. Il faut imaginer ce que ça en est maintenant qu'on vit une situation exceptionnelle. Moi, je crois que ça va être difficile d'imposer les confinements en Afrique parce que, je le disais tout à l'heure, tant que les besoins physiologiques restent les besoins prioritaires et qu'on n'a pas des vraies mesures comme on a pu le voir, par exemple, au Gabon, où on parle quand même pour une population d'un million et demi d'habitants de près de 600 milliards de francs en première réponse directe d'Ali Bongo. Et donc là-bas, on peut imposer en quelque sorte des confinements, mais pour d'autres pays, ça va être difficile. Moi, j'ai bien fait le calcul que quand on veut parler du Sénégal, par exemple, que tout de suite, on a 1 000 milliards, donc les États exercent leur souveraineté en faisant fonctionner la planche à billets, 1 000 milliards tout de suite pour, j'ai entendu parler de 180 000 par famille. Je crois qu'on doit aller sur des mesures comme ça si on voudrait que la coercition ait un sens.
Alors René Lec, lorsque le président Patrice Talon du Bénin dit que le confinement est une situation qui serait très difficile pour sa population, c'est une décision que vous comprenez, le fait qu'il n'applique pas en fait ce confinement?
Écoutez, bien sûr que je comprends la difficulté. Dans le monde entier, le confinement est contraire à la nature humaine. Dans toutes les sociétés du monde, récemment parlé tout à l'heure, du fait que, bon, au Sénégal, dans le Sahel, sur l'ensemble du continent africain, mais sur l'ensemble de la planète, les êtres humains ont besoin d'interagir, de se toucher, de se congratuler, d'être ensemble, de manger ensemble. C'est un besoin humain qu'on retrouve partout. Donc, l'Afrique n'est pas dans une situation exceptionnelle de ce point de vue-là. Mais par contre, ce qui est exceptionnel, c'est vrai, c'est que c'est l'importance et l'ampleur du secteur informel qui rend la situation plus difficile dans nos pays en Afrique, parce qu'il est très difficile. Il n'y a pas une articulation capitale, il n'y a pas une épargne, y compris au-delà même d'une épargne d'une semaine, au point de vue financier, qui puisse permettre aux populations d'être autonomisées.
Est-ce que peut-être ce n'est pas l'occasion, après cette pandémie, de repenser tout le système économique et sociale pour qu'il y ait moins de personnes qui pratiquement vivent au jour le jour, c'est dégassement.
Dans beaucoup de pays en Afrique, le modèle libéral prôné par les FMI, la Banque mondiale dans les années 90, a totalement déstructurer ou détruire le filet social dont bénéficient beaucoup de populations. Donc, c'est cet ordre libéral imposé par la Banque mondiale, les unis africains, qui aujourd'hui est remis en cause et va devoir changer à la suite de cette épidémie. Parce qu'elle n'a plus la légitimité qu'elle avait, elle n'apporte clairement pas la réponse aux difficultés auxquelles les gens sont confrontés dans les situations telles que celles que nous vivons en ce moment.
Alors, nous avons beaucoup de réactions sur notre page Facebook, la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons, par exemple, Vasiki Bamba à Abidjan qui dit que toutes ces mesures sont bonnes, mais la réalité est que le problème du confinement en Afrique se situe au niveau de la prise en charge des populations durant cette période de crise sanitaire. Sefas Kabuka écrit... Ici, en RDC, ces mesures causent beaucoup de problèmes aux familles démunies. Ce n'est pas le Covid-19 qui tue, c'est la faim. Alors, par contre, il estime que c'est un avantage qui consiste à éviter la contamination. Voilà donc quelques-unes des réactions de téléspectateurs sur notre page Facebook. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Merci de nous retrouver pour cette seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités. À Dakar, nous avons Seydi Gassama, secrétaire exécutif d'Amnesty International, section Sénégal. À Paris, nous avons Morgan Palmer, journaliste consultant en intelligence stratégique. Et ici, dans la région de Washington, précisément dans le Maryland, l'analyste politique et consultant René Legge. Mais avant de les retrouver, direction le Cameroun, où nombreux sont ceux qui ne respectent pas toujours la distanciation physique. C'est le constat qui se dégage en parcourant les avenues commerciales et les marchés. Et c'est un reportage de notre correspondant sur place, Emmanuel Julta.
Des Camerounais côte à côte à la gare routière de Yaoundé. Ici, la distanciation sociale semble n'avoir pas été totalement intégrée dans les habitudes. À l'instar de ces conducteurs de car qui se font sensibiliser ce jour, mais avec beaucoup de peine, sur le bien fondé de cette mesure barrière.
Vous savez que la gare routière, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Donc, il y a ceux qui peuvent le faire, ceux qui ne peuvent pas le faire. Là, franchement, on ne peut pas avouer que nous le respectons. Tu veux jouer avec ton ami, tu veux faire comme ça, ça ne marque jamais.
L'écart à maintenir entre des personnes n'est non plus respecté dans ce restaurant situé en bordure de route. Pire encore, au marché de Fundi, non loin du centre-ville.
Le marché est tellement saturé, ce n'est pas respecté. Et est-ce qu'on ne peut pas chasser, je ne peux pas chasser ma voisine. Et quand il n'y a pas assez de place, on n'y peut rien.
La situation est similaire sur l'avenue Kennedy, l'une des principales artères commerciales de la capitale. De quoi inquiéter certaines personnes avisées.
Le pire pourra arriver. Qui sommes-nous face à cette pandémie? Qui sommes-nous si déjà les États-Unis, avec le moyen aussi important par rapport au Cameroun, respectent ça? Nous, si nous ne le faisons pas, attendons-nous au pire.
Le Cameroun a atteint le stade 2 de la pandémie avec plus de 650 cas confirmés au Covid-19. Au Centre national des opérations d'urgence sanitaire, quartier général de lutte contre la maladie, Les spécialistes interpellent les populations au respect de la distanciation physique.
Elle est très efficace, cette distanciation sociale, lorsque nous faisons face à une infection qui est transmise par des gouttelettes ou des éternuements. Et on est dans le Covid, c'est le principal mode de transmission de la maladie. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on a des masques.
Pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement camerounais a rendu désormais obligatoire le port du masque de protection dans tous les modes de transport public à travers le pays. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Merci beaucoup Emmanuel. Alors, Seydi Gassama, c'est plutôt une question de droit économique et social ici, non?
Absolument, je crois que c'est pour cela d'ailleurs que beaucoup d'États africains ont pris les mesures sur le graduel. Ouais, même pour la fermeture de frontières, beaucoup de pays ont hésité pendant très longtemps. Au Sénégal, c'est vraiment lorsque l'épidémie a commencé à monter et que les cas importés devenaient extrêmement nombreux que l'État a décréter la fermeture des frontières. Donc, clairement, les États avaient en tête les conséquences économiques de la pandémie, les conséquences économiques de la fermeture des frontières, et donc les mesures ont été prises de façon graduelle. Nous avons eu en Afrique le temps d'apprendre de la réaction à la Chine, le temps d'apprendre de la réaction dans des pays comme la France, l'Italie et l'Espagne. Et donc, je crois que forcément, on va peut-être avoir beaucoup moins de difficultés avec la pandémie que ces pays-là.
Alors Morgane, est-ce que vous pensez que la communication a été bien menée en Afrique avec l'implication par exemple des guides religieux, des chefs religieux?
Oui, la communication est bien. J'observe juste une petite défaillance générale dans les classes politiques africaines. C'est qu'on, quand il y a une situation d'exception, on est face à une urgence sanitaire, on aurait pu sur le plan politique, convoquer une trêve, ça veut dire quoi? Ça veut dire battre le rappel des troupes, tout le personnel politique, les forces vives de la société, afin que ces dernières s'accordent sur une stratégie commune et globale qui allait, à mon sens, impacter de manière plus efficiente les sociétés. Bon, maintenant, sur la communication, je vous ai dit qu'on est parti sur des phénomènes d'attendrissement mondiaux. Il y a Pape Diouf, il y a plein de figures qui étaient quasiment compenser, aller un peu au-dessus de certains mots qu'on a vus terrassés par cette maladie. Et je crois que, en fait, la meilleure communication a été celle-là, parce que les gens étaient sensibilisés sur des choses concrètes. Bon, maintenant, je le redis une fois de plus, si les États africains ne continuent pas à apporter une réponse graduelle au problème en tenant compte des réalités, c'est-à-dire sur le moment aujourd'hui de parler de souveraineté, en faisant parler la planche au biais, il vaut mieux pour un État qu'il aille sur des endettements exponentiels pour répondre à cette catastrophe que de rester là et payer le plus lourd prix sur le plan humain. Parce qu'on va quasiment vers la détérioration ou bien la disparition de certains États si on n'est pas sur, aujourd'hui, une réponse qui soit à la hauteur de l'enjeu. Vous avez vu, nous, par exemple, au Cameroun, quand ça a commencé, l'épicentre de Corona, c'était à Wuhan. On avait 300 de nos concitoyens, comme on est bloqué, hein, pris en otage dans cette ville. À l'époque, en février, par voie de communiqué, nous avions demandé à notre gouvernement de mettre en place d'urgence un plan de 3 milliards de francs CFA qui permettrait de rapatrier ces populations camerounaises donc coincées là-bas, de financer la construction des zones tampons au niveau des aéroports qui permettraient d'accueillir, diagnostiquer et garder en confinement là-bas les gens qui étaient sur des cas douteux, et puis de financer une part de la solidarité vis-à-vis de la Chine. Parce que notre conviction à l'époque, c'était de dire qu'il pleut sur tous les toits. Donc ce qui se passe en Chine, c'est s'étendre.
Oui. Alors René Lec, déjà au mois de mars, Michelle Bachelet, la patronne du bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, avait mis en garde les États de ne pas profiter de cette situation d'exception pour réprimer la dissidence ou confisquer les libertés individuelles. Sa crainte est-elle justifiée?
Il y a plusieurs cas comme ça. Il y a même des grosses opérations de type constitutionnel, de manœuvres constitutionnelles qui se passent dans certains pays, profitant un peu de la situation. Encore une fois, ça nous ramène à des questions de gouvernance. Hein. Vous savez, une pandémie ou une épidémie à un niveau national n'échappe pas au tard de la malgouvernance. Au contraire, même, quelque part, je crois qu'elle les accentue.
Oui, alors Saïd Gassama, est-ce que vous craignez qu'après cette pandémie, donc certains États en profitent pour maintenir ces mesures d'exception?
Ah, il est clair que dans les États où la classe politique, l'opposition n'est pas très forte, où elle n'est pas présente de façon significative à l'Assemblée nationale, où la société civile n'est pas combative, il est clair que dans ces États, certains chefs d'État, parce qu'ils ont eu tous les pouvoirs, vont certainement vouloir continuer dans cette logique. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais même en Europe. On a vu dans certains pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, les chefs d'État qui sont arrogés plein de pouvoirs. Et on craint que ces pouvoirs ne vont pas du tout être restitués au peuple. Donc, il faut rester vigilant. On a signalé tout à l'heure le cas du Sénégal. Le président a eu une très bonne approche en consultant tout le monde, la société civile, la classe politique, les leaders religieux, tout le monde. Aujourd'hui, 1 000 milliards sont dégagés pour une réponse à cette pandémie, dont une centaine de milliards pour l'aide alimentaire. Ce que nous craignons maintenant, c'est que dans la gestion de cette pandémie, en ce qui concerne notamment la gestion de ces fonds, puisque la loi d'habilitation qui a été votée et qui donne au président les pleins pouvoirs pour prendre les décisions, le Parlement est mis de côté pendant toute cette période, que la question des marchés agré-agré, des marchés publics, des processus normaux de passation des marchés est mise en berne, qu'aujourd'hui on assiste à des situations qu'on a connues dans le passé, où vous avez des cuillères qui ont été achetées à 25 000 francs, 30 000 francs, et les gens vont rester vigilants. Et nous disons clairement, on a donné au président tous les pouvoirs, mais cela ne signifie pas qu'il ne va pas rendre compte. On donne tous les pouvoirs, mais l'obligation de rendre des comptes, elle reste là. On demandera des comptes une fois que la situation exceptionnelle sera passée.
Morgane, il y a quand même la question de la protection des groupes vulnérables qui doit continuer malgré tout, même si on est en période d'urgence médicale. On ne peut pas oublier des situations critiques comme le Sahel, l'extrême nord du Cameroun, la partie anglophone du Cameroun, l'est de la RDC, non ?
Oui, surtout que les Camerounais sont frappés un peu par la double peine. Vous savez que nous avons ce conflit que vous avez évoqué, donc c'est différents théâtres d'opération. Aujourd'hui, sur les chiffres que nous avons, le Cameroun est le deuxième pays où il y a le plus de cas de coronavirus après l'Afrique du Sud. Dans la région du nord-sud-ouest Cameroun, c'est quasiment 500 000 personnes qui sont déplacées de guerre depuis 2016. Donc effectivement, dans un contexte comme celui-là, avec des comptes publics exempts, du fait du financement de ces différents théâtres d'opération, évidemment, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Mais je ne suis pas persuadé par contre qu'on ira vers un rétrécissement des libertés profitant de ce qui se passe, parce qu'il faut dire que aujourd'hui même les autorités politiques au Cameroun et étatiques sont un peu larguées par ce qui se passe. Ça a pris tout le monde de court, on peut pas leur faire ce procès, c'est de manière mondiale. On voit que même des pays mieux structurés, mieux organisés, l'Italie par exemple, ont eu du mal à apporter des réponses tout de suite au problème.
Voilà, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités, merci à vous qui nous avez suivis et à nos télépartenaires. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook et sur notre site internet voafrique.com. Je remercie l'équipe de production. À très bientôt. Au revoir.